Bonsoir. Plus de 14 millions de dollars américains ont été détournés de l'enveloppe de rémunération des fonctionnaires de l'État au dernier trimestre de l'année 2015. Annonce faite ce week-end par le ministre d'État au budget qui indique que ces fonds sont détournés dans les provinces de l'Équateur, du Congo central, du Bandundu et des deux Kasaï, toutes dans leur ancienne configuration. Selon le ministre, ces irrégularités ont été constatées dans les secteurs de la santé et de l'enseignement. Quelle analyse faire de cette déclaration du ministre? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 15 février 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Baptiste Ndefou. Il est président du syndicat national des professionnels de l'administration publique, CIPRAP en sigle, et rapporteur de la commission de contrôle du ministère du budget. Monsieur Ndefou, bonsoir.
Bonsoir.
Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO en sigle. Il est aussi contact national de l'ONG Transparency International en RDC. Monsieur Mpararo, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Et le professeur Emmanuel Banesuizé, qui est professeur à l'Université de Lubumbashi et directeur général de l'École supérieure de la gouvernance économique et politique. Monsieur le professeur, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kati.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Mathieu Bawere depuis Goma au Nord Kivu. Cette dénonciation est encouragée. Il est souhaitable que le ministre du budget puisse saisir la justice pour que les auteurs, quel que soit leur rang, puissent subir la rigueur de la loi. Merci de nous suivre à Matadi au Congo central sous la sonde 2.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
13,6 milliards de francs congolais, soit plus de 14 millions de dollars américains détournés de l'enveloppe des rémunérations et des fonctionnements des agents et fonctionnaires de l'État pour le dernier trimestre de l'année 2015 dans les provinces de l'Équateur, Congo central, du Bandundu et des deux Kasaï, toutes dans leur ancienne configuration. C'est les résultats de la commission d'enquête mise en place depuis juin 2015 par le ministre du budget suite à des irrégularités constatées dans les secteurs de la santé et de l'enseignement. D'après le ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo, en plus des sanctions administratives, le gouvernement s'engage à traduire en justice les auteurs de tous ces forfaits. Shakib Molima nous en dit plus.
En ce qui concerne d'une part les rémunérations, les résultats démontrent que des sommes importantes se percevaient avec des doublons dans les listes de paye sur des personnes décédées, des déserteurs et des fictifs. Le ministre d'État en charge du budget donne ici un exemple éloquent de cette question des fictifs. Michel Bongongo.
À la division provinciale de la santé du Congo central, la mécanisation de 547 agents, dont 510 fictifs.
En ce qui concerne par ailleurs les frais de fonctionnement, des montants importants étaient versés malheureusement pour des établissements fictifs. Aujourd'hui, c'est félicité le ministre d'État, tout cet argent qui s'est volatilisé dans la nature pourrait désormais servir à l'amélioration de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Mais que pense le gouvernement quant aux agents qui ont facilité cette évasion? Michel Bongongo ne va pas par quatre chemins.
Le gouvernement a décidé, au-delà des sanctions administratives, de saisir les instances judiciaires. Vous n'allez plus vous étonner d'entendre que certains parmi vous vont aller à Makala.
Notons enfin que cette commission d'enquête a bénéficié de l'appui du banc syndical lors de toutes les descentes sur terrain.
Merci Jacques Molima, Jean-Baptiste Ndefou. Je rappelle que vous êtes président du syndicat national des professionnels de l'administration publique, CIPRAP en sigle, et rapporteur de la commission de contrôle du ministère du budget. Quelle analyse vous faites d'abord de cette déclaration du ministre?
Merci bien madame. Je vais un peu m'acquitter d'un devoir, celui de présenter, bien que légèrement en retard, à tous les auditeurs de Radio Okapi et à vous-même, mes vœux le meilleur pour cette année nouvelle.
Merci.
Cela étant, quant à l'analyse que je fais de la déclaration du ministre, je pense que c'est clair. Vous savez, quand on a déclenché cette opération de contrôle de la paye et de frais de fonctionnement, c'était...
Vous l'avez déclenché quand?
C'était au mois de juin de l'année passée. Hein. Et on a fait le travail pour le deuxième trimestre pour la ville de Kinshasa. On a cru pouvoir déclencher quelque chose qui puisse faire, qui pouvait provoquer une dissuasion pour que les gens arrêtent. Mais vous voyez, quand on se rend compte que même au dernier trimestre, il y a des camarades qui se complaisent à mécaniser des fictifs, c'est qu'il y a vraiment péril en demeure. Donc, l'attitude prise par son Excellence Monsieur le Ministre est tout à fait à encourager. Et il n'est pas aisé à la fin de pouvoir faire un travail et faire un état des lieux et sans qu'on ne sanctionne. Parce que dès lors que ça va perdurer, donc le mécanisme va continuer et vous comprenez, c'est pas le pays qui gagne. Donc c'est un peu ça.
Nous, et vous pensez que cette fois-ci, ça va marcher avec cette annonce du ministre qui parle des sanctions, pas seulement administratives, mais aussi au niveau de la justice?
Je crois fermement à ce que ça puisse se matérialiser. Simplement, parce qu'en amont, c'est le chef de l'État lui-même qui a instruit le Premier ministre pour qu'on déclenche ces contrôles sur la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Et maintenant, où nous sommes en train de parler ici, le Premier ministre a instruit le ministre de la Justice quant à ça. Je pense que le décor est planté pour que cette fois-ci, on puisse vraiment mettre fin à cette gabégie et qui se caractérise dans... La paye des agents et fonctionnaires de l'État.
Alors, on va se rappeler qu'en octobre dernier, 2015, le ministre avait annoncé que le gouvernement a déniché un réseau mafieux qui détourne trimestriellement la somme de 10,9 milliards de francs congolais. C'était, je crois, pour la ville de Kinshasa. Oui. Malgré cette dénonciation du ministre, les détournements ont continué quand même. Ça veut dire que les sanctions n'ont pas suivi.
Bon, il y a eu à un moment donné des sanctions. Hein. Vous savez, au départ, on avait décelé une mécanisation abusive des agents, notamment dans les secteurs de la santé. Il y a des jeunes médecins qui devaient être mécanisés, mais là, au lieu de rester dans la fourchette qui avait été décidée par la hiérarchie, on est allé au-delà de cela. Ce qui avait fait qu'en son temps, on a procédé à une mise en place à la direction de la paye, parce que on pensait que, et on pense jusqu'à preuve du contraire, que c'est parti de là. Il y a une nouvelle équipe qui est restée, qui a été plutôt placée. Mais le processus avait été déjà mis en place bien avant. C'est-à-dire la nouvelle équipe qui atterrit n'a pas encore la maîtrise de tous les paramètres. Ce qui fait que ce qui avait été déclenché en amont continue à courir. Il faut encore un petit temps matériel à l'équipe qui est présentement en place de comprendre ce qui se passe.
Et pendant ce temps, les déploiements vont continuer.
Mais justement, c'est justement ce qui fait que quand nous sommes allés en province, nous avons trouvé que le même système continue. Et donc, quelque part, il faudra nécessairement qu'on établisse les responsabilités. Ça ne c'est pas un effet du hasard que beaucoup d'argent puisse sortir comme ça. Que 500 personnes soient mécanisées du coup sans qu'on sache qui a donné l'ordre. Parce que là aussi, il faut qu'on établisse les responsabilités.
Et jusqu'à présent, les responsabilités ne sont pas encore établies. Les auteurs de ces forfaits ne sont pas connus.
Madame, moi, je suis de la partie syndicale. Le banc syndical a fait son travail et nous avons déposé les conclusions sur la table du ministre. Je crois que vous avez suivi que le ministre a dit qu'il y aura des sanctions administratives et judiciaires. Donc, je ne saurais pas répondre à la place du ministre, mais tout ce que je peux dire, moi, j'encourage.
Est-ce que ces auteurs sont connus?
En tout cas,
vous avez fait le travail avec le ministère, avec le ministre, vous l'avez accompagné.
Tout à fait, tout à fait. Les responsables sont connus, mais ce n'est pas ici, pour moi, l'endroit indiqué.
Non, on ne vous demande pas de citer les noms de ces gens.
Voilà, donc les responsabilités sont établies. Nous savons qui a fait quoi. Donc, c'est clair, et c'est au seul ministre de déclencher...
Est-ce que ça, c'est au niveau des agents, des simples agents, ou bien il y a une ramification sur ce que, je ne sais pas, à l'échelon un peu plus élevé?
Madame, je préfère ne pas trop enfoncer des clous sur ce dossier, sur cet aspect. Et vous savez... nous risquons de mettre la puce à l'oreille.
On voudrait juste personnes. Avoir des précisions. On n'a pas besoin de
oui,
non, juste des précisions.
Il y a des agents qui sont impliqués, ça c'est sûr. Et les donneurs d'ordre pour la paye. Ce ne sont pas des petits messieurs, ce sont des grands messieurs. Donc, il y a tout cet ensemble-là et où on va aller décortiquer, chercher à déceler exactement qui a fait quoi. C'est un peu ça.
Merci, Monsieur Jean-Baptiste Ndifou. Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Vous êtes aussi contact national de l'ONG Transparency International. En RDC, quelle est votre lecture à vous par rapport à cette déclaration du ministre?
Merci beaucoup. Nous, toujours au niveau de la LICOCO, nous ne cessons pas de le dire. Nous nous attendons à ce que les ministres ne fassent pas de déclarations. Nous attendons à ce que les membres du gouvernement ou les ministres puissent faire prendre des actions. Nous ne savons pas si un ministre doit dénoncer ou faire des déclarations. Et après les déclarations, il n'y a pas de suite à donner à ces déclarations-là. Vous comprenez que vous mettez les gens devant une situation floue. Soit le ministre fait ça pour dire, écoutez, le gouvernement est en train de faire quelque chose dans la lutte contre la corruption, mais dans la pratique, dans les faits, nous ne le voyons jamais. Ce n'est pas la première déclaration. Il y en a eu plein. Notre collègue syndicaliste venait de dire qu'à Kinshasa, on a retrouvé des fonds. On a dit que aussi que non, on va poursuivre les coupables. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis le mois de décembre de l'année passée, jusqu'aujourd'hui, que ce soit au niveau du parquet ou des instances judiciaires, je ne crois pas qu'il y a une enquête pour punir tout ce que les amis ont découvert dans la ville de Kinshasa. Maintenant, ils sont partis en province, c'est bon, il y a de l'argent, et d'ailleurs le gouvernement est en train de chercher l'argent, donc on leur donne déjà les pistes pour trouver cet argent-là, mais au niveau de la LICOCO, connaissant nos politiciens, nous ne pensons pas qu'ils vont aller au-delà de leur déclaration.
Vous pensez qu'ils vont se limiter juste à faire des déclarations, il n'y aura pas de sanctions?
Effectivement.
Et que c'est juste pour la consommation de l'opinion
publique? Effectivement,
c'est
pour dire à la FMI, à l'Union européenne, vous voyez, on est en train de faire quoi que ce soit, on est en train de faire ceci, cela. Mais dans les faits, personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, qui a arrêté dans ce genre de choses. Il y a plein de dossiers de détournement, il y a plein de dossiers qu'on a dénoncés, il y a plein de dossiers que les ministres ont dénoncés, même le conseil spécial du chef de l'État, il a dénoncé, mais aucune personne n'est arrêtée.
Alors,
pourquoi? Parce que ces personnes sont effectivement, il y a une chaîne, comme notre ami syndicaliste venait de le dire, la chaîne est très longue.
Peut-être donc que... c'est difficile de sanctionner parce que la chaîne est longue.
Effectivement. D'ailleurs, vous vous souvenez dans l'émission que nous avions fait la fois passée sur le FPI, le premier ministre lui-même devrait déjà demander à tous ces ministres qui ne paient pas les derniers publics, qui ne paient pas, qui ont pris l'argent des FPI, qu'ils retournent cet argent avant d'être dans les conseils des ministres. Est-ce qu'on a déjà pris ces mesures-là? Non. Donc, nous pensons que le ministre d'État doit aller au-delà de ses déclarations. Demain, nous devons écouter qu'il a transmis le dossier à la cour d'appel de Kananga, cour d'appel de Mbujimayi, cour d'appel de Matadi, et les cours d'appel sont en train d'instruire les dossiers. Or, jusqu'à preuve du contraire, on ne voit absolument rien.
Et comment vous pouvez expliquer ces doublons dans la liste des payes des fonctionnaires?
Vous savez, depuis 2006, vous vous souvenez, à un certain moment, Moussite était premier ministre. Pour satisfaire ses membres du Palou, il avait engagé lui-même 10 000 dans ce temps-là.
Vous avez des preuves?
Il avait dit à la radio, à la télévision, on a engagé déjà, il y a même des gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont nouveaux, alors que le budget n'y est pas. Or, pour engager, il faudrait que le ministère des budgets soit associé, il faudrait que le ministère des finances soit associé, pour voir si nous prenons 10 000 aujourd'hui, nous allons les payer comment. Or, vous savez, ce genre d'engagement, ce sont les politiques pour satisfaire leurs membres politiques, pour satisfaire leurs adhérents, et c'est comme ça qu'il faut des engagements fictifs. Or, en engageant, on doit d'abord mettre en retraite certaines autres personnes. Vous savez qu'il y a eu des gens qui sont partis depuis plus de 3 ans, qui ont été retraités, mais nous, on n'a jamais payé. Donc, on se retrouve devant des politiciens qui ne veulent pas suivre, qui ne veulent pas appliquer les lois. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Vous devez, les politiques doivent appliquer les lois. Dès que nous appliquons les lois, il n'y aura pas de problème d'effectif ou de quoi que ce soit.
Alors, Ernest, excusez-moi, Ernest, on parle tout à l'heure, avant de commencer cette émission, vous dénonciez la présence des syndicalistes dans cette commission de contrôle du ministère du budget. Pour vous, c'est incompatible?
Effectivement, nous, au niveau de la LICOCO, nous sommes des légalistes. Nous pensons que les syndicats doivent jouer leur rôle de syndicalistes. Les syndicats ne sont pas là. Ils peuvent, oui, ils peuvent investiguer et dénoncer. Ça, c'est OK. Comme tout autre Congolais qui peut dénoncer. Mais les mettre dans une commission de contrôle, ce n'est pas leur rôle. Le rôle de contrôle ou le rôle d'une commission de contrôle est révolu selon la loi à la Cour des comptes ou à l'inspection générale des finances. Ou encore, dans chaque ministère, il y a une direction de contrôle. Les contrôles internes. Au ministère de la Santé, il y a des inspecteurs de contrôle. Au ministère du Budget, il y a des contrôleurs budgétaires. Donc ce sont ces gens-là qui doivent faire ce genre. Mais si le gouvernement estime que, à travers les syndicalistes...
Peut-être plus de clarté, plus...
Juridiquement, ça va poser de problème. Parce que ce qu'on accuse aujourd'hui, dès qu'on part au tribunal, ils peuvent se dire, écoutez, ce rapport-là, la personne qui l'a produit n'a aucune qualité. Maintenant, pour légitimer cela, il faudrait qu'on puisse prendre les structures légales, ou les structures légales plutôt, qui vont aller encore sur le terrain pour confirmer ce que les syndicalistes ont écrit comme rapport. Mais juridiquement, c'est une commission qui n'a pas vraiment de sens.
Merci Ernest Ampararo. Jean-Baptiste Ndeko va répondre à cette préoccupation, mais après l'intervention du professeur Emmanuel Banesuizé, qui est professeur à l'Université de Lubumbashi et directeur général de l'École supérieure de la gouvernance économique et politique. Professeur, comment vous analysez cette déclaration du ministre?
Merci madame. Alors, je vais dire deux choses. D'abord, je note et je me rallie à ce que mes prédécesseurs de tout à l'heure ont dit. En fait, ce n'est pas la première déclaration publique de dénonciation de détournement suivie de promesses, de sanctions et même de mise à la disposition de la justice des présumés responsables de tels actes. Et malheureusement, cela n'a jamais abouti. Peut-être qu'on a l'impression qu'on est en fait en face d'une politique spectacle où il faut se dédouaner en montrant effectivement que l'on travaille, mais en réalité, on ne va jamais au bout des promesses qu'on tient, on ne va jamais au-delà des déclarations qu'on fait à la télévision ou à la radio. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de la politique des spectacles. On n'a jamais vécu cette politique-là au Congo depuis des années et ça n'a produit aucun effet. On doit plutôt agir. Ce qu'on veut, ce sont des actes que les ministres posent et non pas des déclarations. Deuxièmement, en fait, je pense que s'il y a détournement, ou si le détournement persiste, puisqu'il apparaît qu'il y a effectivement détournement, si le détournement persiste, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quant à la maîtrise des agents. Quant à leur mouvement, quant à leur... Enfin, il n'y a pas de suivi dans les recrutements, mais aussi dans la progression des agents. Quant à ce qui se concerne ceux qui quittent leur service ou ceux qui meurent dans leur service, c'est qu'il y a un problème là-bas en ce qui concerne la tenue des fichiers de ces agents-là. Or, on a beaucoup déclaré chez nous qu'on a informatisé les services publics. Mais ces déclarations laissent voir donc qu'on n'a pas du tout informatisé ce service-là. Puisque si l'on a vraiment informatisé ce service, on devrait être en mesure de contrôler les agents. On devrait chaque fois savoir lorsqu'un agent est ajouté sur la liste, qu'il a été ajouté. Lorsqu'il meurt, on doit savoir qu'il a disparu et qu'il doit disparaître automatiquement du fichier. Ou lorsqu'il est muté d'un service à un autre, cela doit être su parce que, en fait, si cela est informatisé, ça doit se faire automatiquement. Mais on note donc qu'on continue à travailler de façon, de façon presque archaïque, alors que nous sommes quand même à l'ère de l'informatique et nous sommes un État. On devrait donc mettre l'informatique au service de la maîtrise des effectifs, des contrôles des flux des agents, mais aussi des mouvements financiers qui se font, puisqu'on a parlé justement des bancarisations. Et puisqu'il y a bancarisation, comment expliquer qu'il y a autant de détournements? C'est cela que le ministre devait nous expliquer, le gouvernement devait nous expliquer. Et voilà les deux éléments que je voudrais rappeler. Et en troisième lieu, je ne pense pas que ce soit nécessaire de mettre les syndicalistes ou de créer, je ne sais pas quoi, une commission qui va descendre dans les provinces pour auditer. Il y a déjà des institutions qui existent. Et je crois que c'est à force de vouloir à tout prix contourner les institutions dans notre pays qu'on en arrive à des problèmes. Donc il y a des institutions qui existent, on cherche à les contourner pour justement mettre en place des commissions ad hoc qui vont se payer alors qu'on est en train de dénoncer des détournements, on est en train de dénoncer la corruption. Mais ça, c'est aussi des formes de corruption, c'est aussi des formes de détournement des fonds. Je pense qu'on doit absolument responsabiliser les services qui ont en charge de mener des audits, de les faire et non pas créer des structures ad hoc qui parasitent finalement et affaiblissent les institutions publiques qui existent ou les institutions légales qui existent.
Et donc le gouvernement devrait revoir sa façon de faire, sa manière de mener ses enquêtes.
Oui, moi je crois parce qu'il existe. Il existe quand même dans notre pays une cour des comptes, il existe des services d'audit au niveau du ministère de fonction publique ou au niveau du ministère du budget. Le ministre n'a pas besoin de créer une commission où il va mettre ses conseillers ou il va mettre, je ne sais pas, les membres de tel ou tel autre parti ou les syndicalistes pour défendre en province. Puisqu'il existe déjà des services au niveau du ministère, il existe un service d'audit, il existe une cour des comptes, mais il existe aussi un procureur de la République dans notre pays. Donc on n'a plus besoin de multiplier des structures ad hoc parce que ces structures, il faut les payer. Il faut financer leur mission en province. Ils doivent faire des rapports. Et donc, en même temps qu'on dit que nous n'avons pas d'argent pour organiser correctement l'État, en même temps, on doit multiplier de l'argent pour payer des gens qui doivent aller en province pour des choses qui sont déjà connues. Parce qu'il est déjà connu qu'il y a eu des détournements. Le ministre l'a dit qu'il y a eu des détournements. C'est donc déjà connu. Mais pourquoi il doit encore créer une commission pour des choses qu'il connaît déjà? Donc, il a même dit dans son discours, je venais de le suivre tout à l'heure, il a dit, ne soyez pas étonnés que certains d'entre vous se retrouvent bientôt à Makala. Donc, il sait déjà, il a même déjà enlevé à ces gens la présomption d'innocence. Donc, il sait déjà qu'ils sont coupables. Mais pourquoi il doit encore créer une commission s'il en est ainsi, puisqu'il sait qu'ils sont responsables, qu'ils doivent aller à Makala? Mais pourquoi il doit encore envoyer les gens en province pour enquêter sur des choses qu'il connaît déjà? Il connaît déjà les responsables, me semble-t-il, quand on écoute son discours.
Merci.
Il n'a plus besoin d'envoyer des gens.
Merci.
Tout simplement que les procureurs se saisissent de ça. Parce que le rôle du procureur dans notre pays, me semble-t-il, c'est aussi de rechercher les infractions. Il devrait donc se saisir.
Merci, professeur.
Pour les mener à ce niveau des enquêtes.
Merci, professeur. Jean-Baptiste Ndefou, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Calémie.
Maître Omar Imena, je vous appelle à partir de Calémie dans la nouvelle province du Tanganyika. C'est en vain lorsqu'on essaie de calmer une hémorragie sans toutefois en combattre les causes. Notre histoire se répète sur les points de détournement. Ceux qui peuvent sanctionner, malheureusement, sont ceux-là même qui sont à la base des dits détournements dans la majorité des cas. D'où la sanction doit commencer contre tous leurs commanditaires résidents à Kinshasa qui imposent à leurs subalternes vivant en province ce qui est communément appelé opération retour.
Réaction, Monsieur Ndefou.
Merci bien, cher frère. Je suis content que vous ayez votre point de vue. Ça n'engage que vous. Moi, je ne saurais pas dire que, au stade où nous sommes, ce sont ceux qui pilotent les ministères qui sont à la base de ces mécanismes. Je ne veux pas le disculper, mais du moins, il faut qu'on établisse les responsabilités. Parce que je ne vois pas, par exemple, à ce stade, un ministre qui va créer l'effectif pour aller, le faire sortir dans les bas Congo ou quoi. C'est trop bas. Mais ce qui est vrai, tout part de Kinshasa. Tout part de Kinshasa simplement parce que, vous savez, les camarades qui sont ici, et tellement que la pauvreté a pris ses racines dans le pays, ça il faut qu'on le reconnaisse, les gens sont devenus faibles d'esprit. Faibles d'esprit à telle enseigne que pour un rien, on est prêt à sacrifier les intérêts de la République. Mais moi, je pense que pour vous rassurer, cette hémorragie, c'est vrai, elle a commencé, ça fait longtemps. Mais il faudra que ça s'arrête à la fin. Nous avons un pays et le seul pays que nous avons, c'est le Congo. Faudra-t-il laisser ce Congo aller jusqu'au fond du gouffre parce que c'est un système que nous avons hérité et ça doit continuer comme ça. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous allons laisser à nos enfants comme héritage? Un pays pourri, un pays où les antivaleurs priment, Non, moi je pense qu'il est plus que temps que les choses changent.
Alors vous répondez à la préoccupation de M. Mpararo par rapport à la présence des syndicalistes dans cette commission.
Oui, je commence.
Est-ce que ce n'est pas acheter votre morale?
Non, madame, loin de là. Moi je pense que si les camarades peuvent se souvenir, la réforme dans l'administration publique a commencé depuis 2002 avec la coopération belge. Et ça a continué jusqu'au moment où nous sommes arrivés en 2005. Nous avons connu des problèmes dans l'administration. Vous savez, quand on réalise une réforme sans l'implication des concernés, c'est en vain qu'on le fait. Vous vous souviendrez qu'à un moment donné, le recensement dans l'administration publique avait été réalisé par des étudiants qu'on a recrutés ci et là. Les résultats, c'était quoi? On s'est retrouvé avec des agents de l'État déstabilisés. Les vocabulaires rejetés, tout ce que vous voulez, repris, ainsi de suite, est né. Tous ces vocabulaires sont nés pendant cette période. Cela voudrait dire quoi? Que si on veut nécessairement que le travail s'efface correctement, il faudrait que ça s'efface avec l'implication des agents de l'État eux-mêmes. Et dans les cas d'espèce, nous avons eu à signer dans les cadres de l'intersyndicat national de l'administration publique INAP, parce que vous savez qu'il y a eu des élections qui ont été organisées dans l'administration publique, du moins à Kinshasa. Et ça a donné des résultats. Ce sont ces syndicats-là qui étaient élus, qui ont signé les protocoles d'accord avec le gouvernement de la République. Dans l'une des clauses de ce protocole, il est dit qu'on doit nécessairement améliorer la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Mais il y a ces mets-là, où on nous demande qu'on fasse d'abord le contrôle pour connaître qui est effectivement agent de l'État. Et là, je réponds directement au prof qui dit que la situation est connue. Mais ces gestionnaires-là qui sont sur terrain, qui entretiennent l'effectif, pourquoi ils ne se sont jamais dénoncés depuis tout ce temps, eux-mêmes? Non, ce que le ministre a dit, si le ministre fait des déclarations aujourd'hui, c'est par rapport aux résultats qu'on lui a amenés. Ce n'est pas parce qu'il connaissait, non, loin de là. Donc, les gestionnaires qui sont sur terrain, ils savent ce qu'ils font, ils ne se sont jamais dénoncés, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les syndicalistes sont descendus sur terrain qu'on a découvert ces histoires.
Donc, mais vous, en tant que syndicaliste, vous devriez le savoir, parce que vous avez des membres.
Non, madame, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, nous sommes dans un état où certaines choses, quand on se permet de les faire, très souvent, ça vous amène des ennuis. Ses amis, ses camarades qui sont sous...
Donc vous évitez de dénoncer parce que vous avez peur des ennuis qui pourraient arriver après?
Pour certains, à un moment donné, c'est-à-dire dès lors qu'il n'y avait pas encore parce que maintenant il y a une couverture. Il y a une couverture, le gouvernement a mis en place un mécanisme qui fait que les syndicalistes peuvent aller et dénoncer ce qu'ils trouvent sur le terrain. Donc il y a au moins ça, même s'il y a des ratés ici et là, mais au moins ça constitue déjà une caution morale. Ce qui hier n'existait pas. Parce qu'un agent qui se permet de dénoncer son chef, voilà, ça le rabote. Vous savez les résultats qui vont suivre. C'est aussi ça les problèmes. Alors aujourd'hui, l'implication des syndicalistes, on peut ne pas le reconnaître, mais du moins, ça a permis d'en arriver là où nous sommes. C'est vrai, il y a des structures, ad hoc, dans certains ministères, dans certains services, qui devaient faire le travail. Mais ils ne l'ont jamais fait. L'argent va et disparaît. Ils n'ont jamais dénoncé. Les frais de fonctionnement partent d'ici. Au niveau de l'état de suivi du budget, vous voyez bien que l'argent est sorti tel jour à telle heure. Mais vous arrivez au niveau de la structure où l'argent était destiné, ils n'ont pas vu un seul franc. Madame, de quelle structure on va nous parler?
Merci Jean-Baptiste Ondefou. Ernest Mpararo, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Amos ici, moi j'appelle à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. S'il ignore que le détournement des deniers publics dans tous les secteurs est une réalité au Congo, jusqu'à penser que c'est un mode de gestion du pouvoir en place. Souvent nos autorités se contentent de dénoncer ou de révoquer les concernés au lieu de les interpeller afin qu'ils répondent de leurs actes selon la loi à la matière. Voilà ce qui laisse croire que ce comportement incivique serait soutenu par ceux qui font semblant de les dénoncer du sommet à la base, étant donné que chacun est concerné et on ne sait qui condamne qui. Tant qu'il y aura l'impunité en RDC, il sera difficile, voire impossible, de mettre fin au détournement des deniers publics dans notre pays.
Merci.
Oui, merci beaucoup. Je soutiens ce que notre compatriote venait de dire. Et nous venons de le répéter et nous le disons toujours. Et nous, au niveau de la LICOCO, nous ne cessons pas de le dire. Je reviens un peu pour répondre à notre ami syndicaliste, pour leur dire, écoutez, c'est ça le rôle des formations. Vous devriez former vos membres dans l'administration publique pour que vous ayez un mécanisme de dénonciation. Pourquoi ? Parce que le contrôle, c'est une matière technique. Et le contrôle ne peut être fait que par les techniciens. Mais vous, syndicalistes, comme les politiques veulent vous embarquer dans leurs choses...
Il n'est pas d'accord avec vous, allez-y.
Il ne peut pas être d'accord, mais c'est ça la loi. Parce que dans des institutions qui travaillent, dans notre pays, il y a des institutions dont les experts sont là, ils ont fait 30 ans pour que contrôler. Ils connaissent les méandres, les faiblesses, les forces qu'ils connaissent. Et ces institutions-là, malgré leurs faiblesses, c'est eux qu'on devrait responsabiliser. Les syndicalistes, je comprends pourquoi, parce qu'ils veulent augmenter les revenus des agents. Est-ce que c'est en contrôlant qu'on doit augmenter les revenus? Je pense qu'en dénonçant, même les chefs, si vous mettez, vous avez des politiques, vous avez des stratégies pour inciter vos membres, pour inciter les fonctionnaires à dénoncer, je pense que les ministres, même si on punit quelqu'un aujourd'hui, dès demain, et s'il y a 100 personnes qui dénoncent, vous pensez que le ministre va faire partir 100 personnes ou 200 personnes? Je ne le pense pas. Donc moi, nous au niveau de la LICOCO, nous ne cessons de le dire, nous devons être respectueux du texte. Les syndicalistes, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas là pour aller faire des contrôles, non. Ils sont là pour défendre les droits des travailleurs. Et parmi les droits des travailleurs, il y a le droit d'avoir un revenu décent. Or, qu'est-ce que nous constatons? Vous dénoncez, oui, mais le gouvernement vous a pris au piège. Vous devrez leur dire, oui, nous sommes d'accord, mais est-ce que vous pouvez associer les gens du cours des comptes qui seront les chefs de mission? Nous venons leur dire, écoutez, ici c'est ici, ici c'est cela, c'est comme ça que la mission pouvait être. Mais celui qui a signé, c'est la cour des comptes ou les spécialistes des finances. Ce sont eux les techniciens. Ils sont engagés pour ça. On les paye pour ça. Ils ont signé le contrat avec le gouvernement pour contrôler.
Voilà. Et puisque ces détournements persistent, Ernesto Mpararo, qu'est-ce qu'il faudra faire pour y mettre fin?
Madame, nous ne cessons pas de le dire. Le détournement est cautionné par les politiques, par les ministres qui parlent aujourd'hui, qui font des déclarations. Moi, je me souviens, vous donner un exemple. Il y a 5 ans de cela, il y a un chef de division qui était en Boudjimaï, qui détournait les fonds. Il y a un agent qui nous avait alerté. Nous avions pris contact à Somala. C'est Matenda qui était ministre des Finances à Somala. Nous avions écrit, nous avions informé le secrétaire général. Ils ont envoyé des missions là-bas. Le monsieur a été suspendu. Vous savez qu'il avait réhabilité? C'est le gouverneur du Kasaï oriental, Ngoïka Sandji. Pourquoi? Peut-être que c'était un de ses supporters. On ne sait pas. Donc, vous constatez que aussi longtemps que les politiques ne veulent pas changer, parce que ce sont les politiques qui ont une main basse sur l'administration. Aussi longtemps que ces gens-là ne veulent pas. Lorsque je viens de vous dire que c'est sous Mouzito qu'on a engagé. Lui-même en avait engagé 110 000 ici à Kinshasa. Lui connaît. Alors, si on n'a rien fait pour Mouzito, pourquoi on doit le faire pour l'autre qui va venir? C'est qu'il était premier ministre à ce moment-là. Et je me souviens, les gens ont marché, les gens de Palou, à la primature. Ils ont fait même des calicots pour le Soudan engager Bisson. Alors, c'est les politiques qu'on doit d'abord commencer. Or, qu'est-ce que nous constatons? La justice est incapable d'interpeller les politiques. Vous ne verrez jamais Mouzito être interpellé. Vous ne verrez jamais les anciens ministres.
Qui...
Effectivement, pourquoi la justice est incapable? Et c'est ça le grand problème. Nous devons crier tout ça, tous ensemble avec les syndicalistes, pour dire, écoutez, vous, justice là, vous devez arrêter aussi les ministres.
Merci, M. Mpararo. Professeur, on va prendre aussi cette réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa.
Riche Kabine Kazadi depuis Kinshasa. Cette annonce est simplement une annonce spectaculaire parmi tant d'autres. Et je me demande même pourquoi continuer à faire ce genre d'annonce, vu que la suite est toujours floué pour raison de principe de secret de l'instruction préjuridictionnelle. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions sévères et publiques contre ceux qui détournent les biens de la République, ces annonces ne seront que du tralala du déjà entendu.
Professeur, réaction.
Je suis tout à fait d'accord. Je l'ai dit quand j'ai pris la parole, qu'en fait on allait à autant de déclarations spectacles pour l'opinion publique, c'est un coup de communication tout simplement pour donner l'impression qu'on travaille réellement alors qu'on devrait s'atteler à agir plutôt. Alors mais je vais revenir à, je crois que c'est les syndicalistes qui tout à l'heure m'a objecté. Enfin, je me demande, et sauf respect à sa personne, mais je me demande s'il comprend ce qu'il dit vraiment quand il parle. Enfin, il dit, dans ses déclarations, il dit que parfois on a constaté que l'argent sort, mais il n'arrive pas à destination, enfin, il n'arrive pas aux structures qui devraient utiliser cet argent-là. Mais cela donc signifie que si vraiment tel est le cas, c'est que la gestion de nos structures étatiques est encore manuel, cette gestion est encore manuelle. Mais si ça se fait par la voie bancaire, on doit savoir qui a retiré cet argent-là. C'est très simple. Si l'argent ne va pas d'une main à une autre, mais passe par la voie bancaire, mais pour retirer de l'argent à la banque, on le retire quand même avec des identités. On signe un document et puis il y a un relevé bancaire. On peut donc savoir que c'est telle personne qui réside à telle adresse, qui a retiré tel montant qui a été versé ou qui a été destiné à telle structure. Mais si ça se fait d'une main à une autre, il va de soi qu'on ne peut savoir qui a pris de l'argent. Donc cela signifie, en tout cas, sauf si le syndicaliste ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il dit vraiment que ça fonctionne très mal, qu'on fonctionne encore de façon manuelle.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ?
Notre gouvernement nous a rappelé.
Allô ? Je disais, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce genre de détournement ? Il y a cet auditeur qui propose des sanctions très sévères et publiques contre ceux qui détournent les biens de la République.
Mais cela a déjà été dit. On n'a pas répété ça 10 millions de fois pour que l'on comprenne qu'on doit sanctionner. Il faut effectivement qu'on fasse, pour sanctionner, on n'a pas besoin de les déclarer, parce que la justice existe pour faire ça. Les institutions existent pour sanctionner ceux qui sont fautifs. On n'a pas besoin de dire 10 millions de fois qu'on va sanctionner. Il faut le faire alors. Mais je crois que ce qui est important, et c'est ce qu'il faut faire, la sanction ne suffit pas pour régler la question. Il faut alors redéfinir la gestion même de nos structures, la fonction publique, comment elle doit être gérée. Elle ne peut plus continuer à être gérée de façon manuelle, et pas seulement la fonction publique. Le ministère de la Santé, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Bref, notre fonction publique doit être informatisée. Et cette informatisation doit se faire rapidement, de telle sorte qu'il y ait en fait un suivi en temps réel de tous les agents de la fonction publique. Le Congo n'engage quand même pas 1 million d'agents de fonction publique. On n'a pas 1 million de fonctionnaires. Et même si on avait 1 million, il y a des pays qui ont plus de 10 millions, de 20 millions de fonctionnaires, mais qui savent les suivre, parce que tout est informatisé. On a l'impression que chez nous, l'informatique ne sert à rien. Nous sommes quand même un État, nous devons nous approprier cet outil-là. Et nous devons les mettre au service de l'amélioration de la gouvernance de nos structures, de notre administration publique, pour la rendre efficace. Je crois qu'il faut, c'est vrai, sanctionner, et j'ai dit qu'on n'a pas besoin de le répéter 10 millions de fois, sinon on se suicide, on ne veut pas réagir. Mais il faut absolument passer à l'informatisation de notre administration publique. Il faut renforcer les mesures qui avaient été annoncées par le Premier ministre, à savoir la bancarisation, pour que tout se passe par la voie bancaire. Il est inadmissible qu'on trouve dans les bureaux des ministres ou dans les bureaux des commis de l'État des caisses dans leur bureau alors qu'il y a des banques. Donc tout doit se passer par la voie bancaire. Et si tout se passe par la voie bancaire, il est facile de contrôler qui fait quoi et qui a pris l'argent à tel moment, pourquoi l'argent n'est pas arrivé là où il devait arriver et comment on doit le récupérer pour qu'il rentre dans la caisse de l'État.
Merci, professeur.
Voilà ce que je pense qu'on doit faire automatiquement.
Merci, professeur Banu Cizé. Jean-Baptiste Ndefo, la sanction, elle ne suffit pas pour mettre fin à ce fléau qui gangrène quand même l'administration, la fonction publique.
Oui, moi je pense que il faut nécessairement qu'on sanctionne. Je suis d'accord avec les camarades, mes co-débatteurs. Il faut qu'on sanctionne pour arrêter ce train de ce comportement irresponsable. Mais il faut, vous savez, maintenant, l'avantage que nous avons eu, et là je voudrais un peu répondre au professeur Emmanuel qui pense que je n'ai pas compris le fond de sa préoccupation de tout à l'heure là. Quand il a parlé, moi je suis intervenu par rapport aux structures ad hoc. Je disais, ces structures existent dans tous les services et partout. Mais jamais ces services n'ont dénoncé. Il a fallu la descente des syndicalistes pour découvrir que les choses s'est passées de cette façon-là. Donc, moi je pense que, et là aussi je réponds directement au camarade Ernest, l'implication des syndicalistes, ce n'est pas en violation de la loi. Il n'y a aucune disposition de la loi qui interdit à ce que les syndicalistes puissent suivre ce qui se passe en ce qui concerne vraiment les intérêts de leurs membres. Ça, c'est notre mission première.
Okay.
Et vous savez, j'avais un peu oublié de vous dire que quand la réforme a commencé, on a eu des gens qui ne sont pas de la maison, ils ont déstabilisé l'administration. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas capable de nous dire il y a combien de fonctionnaires. On ne sait pas nous le dire.
Et les services ne sont pas informatisés?
Si, les services sont informatisés. Mais le ministère de la fonction publique, qui devrait nécessairement nous donner les nombres exacts des fonctionnaires, ne peut pas le faire parce que simplement, à un moment donné, il y a des ratés. Et ces ratés, c'est justement parce qu'on a fait intervenir des personnes qui n'ont pas l'expertise.
Alors en conclusion, Jean-Baptiste Tondefou, il nous reste plus beaucoup de temps.
Oui, je voudrais souligner ici que les syndicalistes qui sont allés sur le terrain, ce ne sont pas des néophytes. Vous avez dans le lot des cadres de la fonction publique, comme moi-même. Il y a ceux du budget, ceux des finances, et tous ensemble, nous avons travaillé. Donc, nous avons l'expertise appropriée pour faire les contrôles. Donc,
merci.
Il faudrait que les camarades apprennent non seulement que nous sommes là pour défendre, mais s'il faut accompagner le gouvernement à démanteler certaines choses qui posent problème, nous sommes prêts à le faire parce que notre principe maintenant, c'est le syndicalisme de participation et de développement.
Merci Jean-Baptiste Defou, Ernest Pararo. Vous allez devoir aussi conclure.
Effectivement, nous ne sommes pas contre la mission des syndicalistes, mais je dis que les syndicats ont été piégés par le pouvoir, par les politiciens. Vous devriez dire, écoutez, oui, nous allons y aller, mais il faudrait que les institutions de contrôle prennent les leads, prennent le leadership. Maintenant, vous venez sous couverture de ces institutions-là. À ce moment-là, ce sont ces institutions qui vont signer les rapports. Et ces rapports-là, une fois on l'amène au niveau de la justice va les prendre à cœur. Bon. Mais aujourd'hui, avec les rapports que vous faites, la justice va vous dire, écoutez, vous n'êtes pas habilité à les faire.
Merci, monsieur.
Ça, c'est un. Deuxièmement, nous disons que les gouvernements, les politiques, c'est eux qui sont à la base de tout ça. C'est eux qui ont recruté des pléthores, c'est eux qui ne veulent pas cette réforme-là. C'est les politiques qui ne veulent pas qu'on connaisse combien de fonctionnaires il y en a en RDC. Donc, nous ne cessons, nous allons nous allier avec les syndicalistes pour dénoncer ces syndicats. Comme je venais de le dire, c'est Mouzito qui a engagé 10 000, qui l'a donné la permission. Il n'avait même pas d'argent. Donc, nous devons dénoncer, nous devons continuer à dénoncer et à aller porter des plaintes au tribunal. C'est comme ça que ces politiques, nous les découragerons. Aussi longtemps qu'on les laisse comme ça, ils vont se voir comme si le pays leur appartient seul.
Merci Ernest Pararo. Professeur, votre conclusion. Il y a José Ndjandiou qui dit ceci. Cette déclaration soulève un réel problème lié à l'impunité consolidée par le clientélisme politico-administratif érigé en mode de gestion.
C'est ça. Alors, je crois que, et je vais terminer par là, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit plus de dénoncer. On a tellement dénoncé dans ce pays depuis maintenant plus de 40 ans, 50 ans. Il ne s'agit plus de dénoncer. Il s'agit d'agir. Il s'agit de proposer des solutions. Parce que nous avons déjà fait des diagnostics et nous le savons. Maintenant, il faut agir, il faut proposer des solutions. Et comme je le dis très rapidement, tout ce qui a été dit, en fait, révèle encore une fois qu'il y a un problème de gouvernementalité dans notre pays et que beaucoup de choses doivent être améliorées pour rendre la gestion très efficace au service même du développement du pays. Ça, c'est de un. De deux, je ne comprends pas jusque-là et je n'ai pas compris les arguments que les syndicalistes ont développés pour convaincre vraiment l'opinion qu'il est nécessaire qu'ils fassent partie des enquêteurs jusqu'au point de se substituer au procureur de la République, au contrôleur ou aux inspecteurs. Je n'ai pas compris. En tout cas, ils n'ont pas suffisamment argumenté ce point-là.
Merci, professeur. Je suis obligée de vous arrêter. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Hung, Berry, Franklin Lutaka, sous la supervision de Julien Nyamweni. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise, qui était à la technique. Au micro, Kéline Couté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.